Psaume 19, verset 15. Pendant que vous cherchez, j'étais hier avec le pasteur Carayol, Frédéric, qui vous transmet toutes ses salutations. Voilà. Psaume 19, verset 15. Vous avez trouvé ? Ne faites pas semblant de regarder dans le recueil de cantiques, hein. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Amen. Le texte n'est pas long, c'est David qui l'exprime, et j'ai l'impression qu'il est encore des nôtres aujourd'hui, pour apporter dans ces quelques mots des vérités fondamentales sur la notion de culte que l'on peut rendre à Dieu. Je ne sais pas si vous le pensez, moi je le crois, parce que reçoit favorablement les paroles de ma bouche, mais en cohérence avec les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, c'est-à-dire, il est mon protecteur, j'ai placé ma foi, mon espérance en lui, et il est mon rédempteur, celui qui a payé le prix pour moi. On est là dans une dimension, une réalité. David ne connaissait pas le Messie, il ne connaissait pas le Christ, et voici qu'il dit mon rédempteur. Il y a là une dimension plus que messianique, prophétique. Et je voudrais ce matin que simplement nous puissions bien souligner ces paroles dans votre Bible si vous voulez, mais surtout dans votre cœur. Reçois ce matin les paroles de ma bouche. Peut-être quelqu'un va dire « Ah, j'ai pas prié à haute voix, donc c'est raté. » Je vous rassure, Dieu peut entendre la prière de notre cœur. Et puis le jour, vous le ferez à haute voix, vous le ferez à haute voix. Mais ce matin, je m'occupe pas de la forme. Mais je m'occupe surtout de cette réalité. Jésus disait, on reconnaît l'arbre à son fruit. Il n'a jamais dit à un arbre, produis des fruits. Mais il a montré d'une manière simple, au travers du cep, des sarments, du raisin, que c'est parce que le sarment est greffé sur le cep, qu'il puisse sa sève dans le cep, l'importance de demeurer en lui, et le fruit n'est que la conséquence. Ne cherchons pas à travailler les conséquences, ou à essayer, au regard des autres, de produire une image de chrétien. Mais que véritablement, dans notre faiblesse, dans notre misère, dans nos lacunes, dans notre petitesse, nous puissions être au bénéfice de sa présence, de cette sève divine. Alors nous serons les premiers étonnés des fruits qu'il produira au travers de notre vie. Ne laissons pas le poids de la culpabilité nous écraser. N'essayons pas de fuir les réalités. Mais découvrons ou redécouvrons simplement la force de la présence de Christ. Et ce matin, je veux dire, ô Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Vous savez ce que signifie le mot évangile ? Vous pouvez me répondre, hein ? Oui, ça, c'est ce que tout le monde dit. Mais vous savez très bien que moi, je vais dire autre chose. Une faveur qui se réalise, reçoit favorablement. Et le Seigneur nous dit, j'ai une bonne nouvelle, une faveur pour toi. Et nous, on l'a traduit souvent, et Paul l'a traduit par le mot grâce, une grâce. Mais c'est une faveur que nous ne méritons pas. Et Seigneur, c'est pas moi qui produis cette faveur, mais au moins reçoit favorablement l'expression de mon cœur. Des mots simples. Mon rocher, mon rédempteur, Là, on voit bien que David rend un culte. Vous savez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire une étude sur le tabernacle. Je sais que pour certains, ils ont fait une étude sur l'Apocalypse qui est restée en panne. J'ai pas entendu. Non, mais j'ai pas entendu. Ce que je veux dire, c'est que il y avait la porte, il y avait l'autel du sacrifice, il y avait cette cuve d'airain qui était comme un miroir pour nous donner la véritable image de notre vie, puis il y avait le lieu saint. Et au-delà du lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et seul le souverain sacrificateur, une fois l'année, rentrait dans ce lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il y avait le propitiatoire, l'arche. À l'intérieur, il y avait les tables de la loi. Mais ce meuble qui faisait 1,25 m sur 70 et 70 de haut, ce meuble était dominé par deux chérubins qui couvraient l'arche. Et il fallait qu'il y ait répandu le sang, l'objet d'un sacrifice. Et alors le regard de Dieu se posait, et parce qu'il y avait la marque du sang sur l'arche, le péché était pardonné. Dieu était favorable au peuple. On retrouve cela dans la sortie d'Égypte, le sang sur le linteau, les poteaux. On retrouve ça ce matin. Seigneur, c'est parce que tu as versé ton sang que tu apportes un regard favorable sur ma vie. J'arrête de me culpabiliser. Je veux simplement saisir cette faveur, cette grâce, et dire, je dépose ma vie, mon cœur, à tes pieds. En retour, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. J'ai souligné pour nous ce matin trois qualités de ce regard favorable. Tout d'abord, on ira jusqu'à trois, donc on va s'en sortir ce matin. Un, être vrai. Moi, je crois que commettre une erreur, en tant que chrétien, on a le droit à l'erreur. C'est un message curieux ce matin. Vous vous rendez compte que nous, parfois, on ne se donne pas le droit à l'erreur. Malheur à celui qui commet une faute. Oh là là, conseil d'administration. Regardez l'attitude de Jésus à l'égard de Pierre. Cela ne signifie pas qu'il faut pécher, c'est pas cela. Pierre va tromper son Seigneur. Et le Seigneur lui parle, mais le Seigneur a l'impression qu'il n'entend pas. Alors il va lui envoyer un autre prophète, le coq. Et oui, parce que quand le coq va chanter, il va se souvenir des paroles du Seigneur. Tu vas me renier. Et vous savez combien de fois le coq a chanté ? Non, deux fois, et quelqu'un qui a fait ça, deux fois, c'est Pierre qui a renié trois fois. Je dis cela parce que n'attendons pas des chiffres symboliques, mais laissons-nous interpeller par ce que Jésus dit à Pierre. Pierre, tu vas me renier, mais je prie pour que ta foi ne défaille point. Il sait que Pierre va commettre une fois, deux fois, trois fois des erreurs, et pourtant, il ne le dit pas. Je prie pour que tu t'arrêtes, hein, catastrophe, tu vas être perdu. Je prie même plus pour toi. Mais je prie pour que ta foi ne défaille point. Seigneur, quand Pierre revient vers le Seigneur, rien que le regard l'amène à pleurer amèrement sur sa faute, c'est la dimension de la repentance. Mais ce n'est pas une obligation de rite visible de tous. Ça peut se passer à l'intérieur de notre cœur. L'important, c'est d'être vrai. Et c'est la première condition. Vous vous rappelez quand Jésus est au bord du puits et qu'il parle à une Samaritaine, les disciples sont partis faire les courses au supermarché. Et quand ils reviennent, notre maître parle avec une étrangère, de plus une femme. Mais le Seigneur, lui, il était là pour désaltérer. Et cette femme lui dit, nous, les Samaritains, on adore sur le mont Garizim. Le mont de la bénédiction à côté, il y avait Ebal, c'était la malédiction. Et elle ajoute, vous, vous adorez sur à Jérusalem. Et vous savez ce que répond Jésus ? L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et je crois que le plus beau culte, c'est quand on est vrai. Même si on doit dire, Seigneur, je me suis trompé, je me suis égaré, j'ai fauté, j'élève mon cœur vers toi et je te confie ma vie. Ça, c'est un culte qui honore le Seigneur et qui l'amène à triompher. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Ne venons pas comme si nous étions meilleurs que les autres. Mais nous sommes toujours au bénéfice de sa grâce et de son amour. Il est merveilleux. J'ai un ami, vous savez que j'ai beaucoup d'amis, hein, mais vous ne le connaissez pas. Il avait trompé son frère grâce à la maman. Vous savez, parfois dans les affaires de famille, c'est assez curieux. Mais et au travers de symboles de bras poilus, il avait récupéré le droit d'aînesse. Hein? Non, c'est mon histoire. Et à un moment donné, il fait une rencontre avec Dieu. Mais alors, merveilleux. Et il dit, l'Éternel est dans ce lieu. Et Dieu se révélait, mais l'air direct, comme s'il y avait une échelle, il y avait une relation. Là. Oh, ce lieu est redoutable. Puis Dieu lui parle. Dieu lui fait des promesses. Et là, comme s'il se réveillait, il dit, si l'Éternel est avec moi, s'il me donne du pain, s'il me donne de l'argent, si d'ailleurs s'il me donne de l'argent, je lui donne 10%. Il y en a qui savent faire les comptes, hein. S'il me donne rien. Et il ajoute, et que je sois réconcilié avec mon frère, ou que je sois au bénéfice de ta faveur pour ma famille, au bénéfice de ta faveur pour ma famille. Et il finit par prendre de l'huile. Il prend la pierre qui lui avait servi de chevet et il fait l'onction d'huile au caillou. Et il dit, ce lieu sera appelé Bethel. Bethel, c'est un caillou. Je sais qu'on aime bien Bethel, maison de Dieu, mais pour moi, c'est un caillou. Et c'est devenu un lieu d'idolâtrie. Alors, si une maison s'appelle Bethel ou une association, ne soyez pas fâchés. Hein. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas les cailloux qui montent le lieu. Parce que rien n'a changé pour Jacob. Ce n'est pas parce que vous êtes là ce matin, dans ce lieu. Parce que rien n'a changé pour Jacob. Il faudra qu'on attende quelques chapitres, quelques semaines. Et là, à nouveau, il rencontre l'Éternel. C'est à Péniel. Et là, c'est le lieu du combat. Il va lutter, il va lutter, il va lutter. À un moment donné, il est blessé. Mais vainqueur, blessé mais vainqueur. Et son nom change, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Et sa vie change, et son état d'esprit change, et sa mission change. Il va se réconcilier avec son frère. Et l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Hébreux que parmi les héros de la foi, on le retrouve. Et il est dit qu'appuyé sur son bâton, il y a encore la marque de la blessure de la hanche. Appuyé sur son bâton. Il adorait Dieu. Il adorait Dieu. Et il bénissait ses frères. Et je dis, Seigneur, mon regard ne se porte pas vers ma blessure, mais reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Je veux être vrai devant toi, Seigneur. Et je ne veux pas jouer la comédie comme Jacob, ou le marchandage comme Jacob. Je veux être au bénéfice. Et lorsqu'il revient, parce que, vous savez, il a su que son frère envoyait des troupes de guerriers. C'est pas possible qu'un chrétien soit calculateur comme lui. J'ai hâte de le voir pour en discuter. Il a commencé par envoyer les troupeaux. Il s'est dit, il va se fatiguer avec les troupeaux. Et après, il a envoyé les serviteurs. Mais le comble, c'est quand même, il a envoyé les femmes. Non, je sais. Vous n'êtes pas de ce profil. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on est calculateur ? Alors qu'il voudrait que ce matin, nous soyons vrais pour lui apporter simplement la fragilité de nos vies, nos limites, ce que les autres ne voient pas, ce qu'on peut peut-être même cacher à son époux ou son épouse, mais que le Seigneur voit, et lui dire « Reçois favorablement les paroles de ma bouche qui sont en cohérence avec les sentiments de mon cœur. Je veux être vrai. C'est la première condition d'un culte agréable. » Amen. Je l'ai dit qu'il y en avait trois, hein, ça vous rassure, hein. Dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, Romains 12, Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Deuxième qualité d'un culte, c'est cette notion d'offrande de sa propre vie. Nous ne venons pas devant Dieu pour dire « voilà ce que je peux faire » ou « voilà ce que j'ai fait », mais c'est ma vie. Oh, il ne s'agit pas de dire « Seigneur, je vais rentrer au couvent ». Comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas les éléments de notre piété ou nos références. On ne vient pas devant le Seigneur en disant « j'ai la médaille des anciens combattants, des ADD ». Parce que je crois que le Seigneur nous regarde ce matin avec une vision tellement différente de la nôtre que nous soyons les ouvriers de la dernière heure ou de la première, il nous aime tous. Ah, ça me fait du bien. Mais c'est cela, le regard du Seigneur. C'est dire, Seigneur, mais qu'est-ce que moi je peux t'offrir par rapport à ce que tu m'as offert ? Ce matin, dans l'une des prières, ce paradoxe entre l'horreur de la souffrance et la beauté de tes promesses. Mais qu'est-ce que je peux t'offrir ? Et le Seigneur ne nous demande pas des efforts à faire, mais que nous puissions le placer en premier. Cherche premièrement ce royaume. Tu ne vas rien y perdre. Tu n'es pas sur un chemin d'interdiction, de privation, mais sur le sentier de la liberté. Il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est quand Jésus parle du berger, des brebis, et il dit, les brebis, si elles viennent à moi, elles entreront par moi et elles sortiront. Et au début, j'ai dit, il faut que je relise des versions parce que second s'est trompé. Si je rentre dans une maison, je ne sors pas, je rentre. Donc, ça doit être, ils entreront et ressortiront. Et non. Parce que quand on rentre en Christ, c'est la liberté, on sort. On sort de tout ce qui nous a rendus prisonniers. Et la véritable liberté ne peut être qu'en Christ. Si Jésus vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et offrir sa vie, ce n'est pas perdre, c'est tout gagner. Si vous regardez Caïn et Abel, dans les deux, il y en a un qui n'est pas trop mon ami. Vous savez qu'ils ont assisté à leur culte, ils ont fait une offrande. Et Caïn, ça a été les fruits de la terre, et puis Abel, ça a été le premier-né de son troupeau. L'un a été, je ne sais pas quel fruit de la terre, peut-être des pommes de terre, Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Abel a offert le premier-né de son troupeau. C'était quelle image, quelle dimension du sacrifice déjà était marquée dans l'offrande. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous donne l'éclairage précis lorsqu'il dit « C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent et il fut déclaré juste. » Et si on lit bien le texte de la Genèse, c'est « Dieu porta un regard favorable, reçoit favorablement », on retrouve ce mot. Non pas sur l'offrande, mais il est dit sur Abel, et ensuite sur son offrande. Et ce que Dieu regarde, c'est non pas ce que je fais d'abord, mais ce que je suis, parce qu'il m'aime. Parce que Dieu a fait une distinction que nous avons besoin parfois de réapprendre. Il fait une différence entre la personne et les actes. Comme un père pourrait dire à son enfant, « Je t'aime, toi, personne. Ce que tu as fait, je ne l'aime pas. » Et Dieu nous dit, « Je t'aime. » Et toute la dimension de l'offrande, elle est là. « Seigneur, tu as un mépris peut-être pour ce que j'ai fait. Mais ce matin, je viens. » Je t'offre ma vie parce que je sais que tu m'aimes. Même si j'ai dérapé, je sais que tu m'aimes. Et cette vision-là, j'ai besoin de la comprendre. Parce qu'on tombe vite dans le piège des mérites et des œuvres qui nous amèneraient à obtenir quelque chose comme si c'était mérité de la part de l'homme. Tout est effet de la grâce. D'ailleurs, quand Dieu a parlé à Caïn et qu'il lui a dit « Le péché couche à ta porte, il est temps que tu te réveilles et que tu domines sur lui », c'est dans les moments difficiles que se révèle la réalité du caractère et Caïn a révélé toute l'horreur de son caractère. Et là, il n'était plus question de son offrande, mais de sa personne. Parfois, ce sont les moments difficiles qui révèlent nos fragilités. Et le Seigneur voudrait nous dire ce matin, « Je t'aime. » Jésus a eu besoin d'entendre son Père lui dire, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Dis-le-moi, Seigneur, ce matin. Dis-moi que je suis ton fils, ta fille, et que tu as mis dans ma vie tout ton amour. Le culte, c'est quand je lui confie ma vie, non pas ce que je fais. Et puis, troisième, et je termine presque, Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 13. Vous avez trouvé ? Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Je m'arrête un instant. L'église, le mot église signifie appeler hors d'eux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que ce matin on parte de l'église en disant « ça y est, je suis dans l'église en sortant ». Mais dans la dimension de la mission qui est le corps de Christ. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'important dans cette dimension. Quand un jour, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, ils y montaient tous les jours d'ailleurs. Puis tous les jours, on mettait un boiteux là, qui était là à la porte du temple appelé la Belle. comme quoi les noms, ça signifie peu de choses. Mais ce jour-là, il y a eu un regard. Et l'ayant regardé, le boiteux se disait, mais ils vont faire quelque chose pour moi, certainement. Et Pierre a vite compris la situation, il lui a dit, je n'ai rien. Exactement, je n'ai ni argent, ni or. Mais quand on n'a plus d'argent, on dit, j'ai rien. Je n'ai rien. Quelque temps plus tard, la foule commençait à élever Pierre et Jean, et Pierre a précisé, ce n'est pas par notre puissance, et là il ajoute, ni par notre piété. Parce que nous, parfois, on y croit un peu. On pense que c'est la condition de la réponse de Dieu. Mais Dieu, lui, il est Dieu de grâce. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas progresser dans la sanctification. Ça veut dire que la faveur de Dieu, elle dépasse ces choses-là. Je n'ai rien. Et ce que j'ai, dit Pierre, c'est le nom de Jésus. Et je le proclame. Je le proclame sur ce corps qui est paralysé. Pour lui donner la victoire et la guérison sur cette maladie. Je proclame le nom de Jésus capable de pardonner les péchés, capable de restaurer des vies, de consoler des cœurs. Et voilà le culte qui plaît à Dieu. C'est qu'au sein des difficultés, des épreuves, des moments difficiles, je proclame que Jésus est vainqueur. Je confesse que Jésus est vainqueur. Et je crois que ça, c'est très important. Vous connaissez l'histoire. D'ailleurs, je vous parle que des histoires de l'Écriture, je vous rassure. Hein. De ces 12 espions qui sont allés visiter le pays de Canaan. Oui. Moi, j'aime bien cette histoire parce qu'elle est révélatrice. Hein. Quand ils reviennent, il y en a 10 qui ont vu tout le négatif. Et là, franchement, il y en a qui ont le charisme. Mais deux qui ont vu le positif. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du verre à moitié vide ou à moitié plein, mais ceux qui ont vu, et la majorité, si on se laisse aller par une forme de démocratie chrétienne, on peut se faire piéger, ils étaient en majorité. Mais là, ce qu'ils remarquent, c'est qu'ils étaient devant ces géants comme des sauterelles. Et ils ajoutent, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, mais nous étions aussi à nos yeux. C'est-à-dire que face à la difficulté, non seulement ils font grandir l'ennemi, mais ils se rapetissent. Caleb dit, l'Éternel est avec nous, il nous sera favorable. Il ne dit pas, comment on va faire avec ces géants? Il dit, l'Éternel est avec nous, il nous sera favorable. Et c'est pour cela que Dieu dira par la suite, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement écouté ma voix, je le ferai entrer dans le pays de la promesse. Il a été animé d'un autre esprit. Et ce matin, je crois que rendre un culte à Dieu, c'est d'être animé par un autre état d'esprit et de voir dans le cheminement de notre vie non pas les géants, mais de voir la victoire de Christ. Et de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. En tant que rocher qui nous protège, en tant que rédempteur, celui qui a payé le prix, que son nom soit béni. Et je termine. Je l'ai déjà dit, mais je termine quand même. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 2 Corinthiens, chapitre 6, je vous fais lire. Hein. Et vous dites Amen si vous êtes d'accord. D'accord ? Si vous n'êtes pas d'accord, ben vous dites je veux qu'il reçoive ainsi. C'est la traduction du mot Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y en a 3. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah oui. Seigneur. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la... Et entre nous, là, je suis pas le seul à avoir le ministère. Hein. Vous en avez un. Le ministère de la réconciliation. J'ai entendu un jour une chrétienne qui priait « Seigneur, bénis notre serviteur et sa servante. » Il parlait de ma femme. Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même et non en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Oh là là, quelle discussion extraordinaire on va avoir à midi en mangeant. Oui ? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Jésus, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que vous savez, hein, on peut discuter 2 heures avec quelqu'un pour lui montrer l'importance de la réconciliation et que vous repartiez découragé. Vous aviez cru que vous pourriez, mais non. Car c'est le nom de Christ. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, écoutez bien, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Soulignez dans votre Bible ce verset. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le temps favorable, c'est pas demain. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon Rédempteur. Amen.